Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Johnny Coca. Il va nous expliquer ce qu'il fait, Johnny. Mais en tout cas, je voulais simplement vous spécifier qu'on était chez Drouan, une institution centenaire qui occupe une place unique sur la scène parisienne entre gastronomie, vin et culture, à la fois temple de la littérature française et emblème de la grande cuisine bourgeoise. Drouan est l'essence même du restaurant parisien. Salut Johnny.
Bonjour.
On dit Johnny ou Johnny ?
Johnny.
Johnny. Alors, comment tu te présentes, toi, au monde ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Johnny ?
Alors, aujourd'hui, ce que je fais, j'ai repris la direction globale accessoires maroquinerie chez Vuitton. Donc, c'est-à-dire que je travaille sur toute la partie chaud en termes de design maro. Je travaille sur les bijoux, je travaille sur les ceintures, je travaille sur le lifestyle, je travaille sur la maison, je travaille sur les lunettes. Donc, je dessine tous les produits, toutes les catégories liées à la femme.
D'accord.
Pour Vuitton, et je travaille aussi avec Nicolas, qui est incroyable.
Nicolas Gesquière.
Gesquière. Et on essaye de s'amuser en créant des choses qui nous plaisent et qui sont pour nous incroyables et qui vont plaire à chacun des nouveaux clients.
Bien sûr.
Donc c'est un nouvel épisode depuis 3 ans et demi.
Ouais, c'est ça.
Je suis retourné chez Vuitton et c'est vrai que j'avais commencé mon histoire. Chez Vuitton, quand j'étais très très jeune, c'était mon premier job. J'entrais l'école, non, j'avais pas encore fini l'école. J'étais à l'école, j'étais en fac d'architecture Paris-la-Seine et j'étais aussi à l'école Boulle, une école de design produits immobiliers. Et j'étais passionné de design de produits et d'automobile et de bateaux.
Okay.
Et avant ça, j'avais fait une école de design automobile. J'adorais les voitures. Et là, a commencé l'histoire. Et j'étais à l'école et j'avais envie de rencontrer le milieu de la mode. Et là, c'est à ce moment-là où je suis tombé dedans.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans le monde de la mode ?
Ce qui m'a attiré, c'était les femmes. La beauté, comment les sublimer, ce côté un peu magique. J'adorais tous ces looks particuliers, l'époque de Mugler, de Jean-Paul Gaultier, d'Alexandre McQueen, Montana, toutes ces choses-là, c'était incroyable. Voir ces défilés de Christian Lacroix avec ses robes incroyables pendant les shows, avoir rencontré, c'était l'époque des supermodèles, Naomi Campbell, Ina Evangelista. Seymour et toutes ces filles-là qui étaient Nadia Werman et je les trouvais sublimes en fait. Je les accrochais dans ma chambre, je disais waouh comme elles sont belles, et je regardais toutes les parutions, les photos que faisait Nick Knight à l'époque, et c'était incroyable. Donc c'était la mode et la beauté et comment jouer autour de ça.
Trop bien. J'ai une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours depuis ta plus tendre enfance ?
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui t'a amené surtout, on en parlait un petit peu en off, à avoir cette carrière qui semble de l'extérieur assez folle, parce que tu es aujourd'hui considéré comme un des meilleurs bag designers, accessory designers du monde.
Ouais.
Enfin, t'es dans la plus grosse maison du monde déjà.
Oui.
Donc,
c'est vrai.
Et t'es en charge des accessoires dans la plus grosse maison du monde. Donc, d'accessoires, justement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as construit cette personnalité qui semble invincible ?
Alors, je viens du fin fond de l'Espagne, de Séville. Parents, famille. De San Lucas de Barrameda, qui est dans le sud de Séville et Cadiz. Et en fait, ce qui est incroyable là-bas, c'est les femmes s'habillent, les femmes sont tout le temps en train de sortir, danser le flamenco. Et moi, j'étais ébloui de voir leur tenue. Et j'adorais à cette époque-là aussi dessiner, qui était plutôt un plaisir. À la base, j'avais envie d'être juste ingénieur en aéronautique. Et j'ai passé mon temps, dès l'âge de 3 ans, à dessiner.
Okay.
Et j'ai commencé, je suis rentré dans les beaux-arts à l'âge de 6 ans, à commencer à dessiner des nus, des choses comme ça. C'était incroyable, j'adorais. Et j'ai eu un parcours classique à l'école. Et un jour, ma prof de dessin me dit « Johnny, il faut vraiment que tu continues à dessiner ». Et moi, je dis non, ce qui m'intéresse, c'est juste les maths et la physique et la chimie. Et ma mère dit, tu devrais essayer. Et donc, je suis rentré. J'ai essayé, je suis rentré dans une école de design. Et j'ai commencé. Et puis, ça a fonctionné. Après, je me dis, je vais faire de l'archi. Et j'ai continué comme ça à mes études en fac d'architecture, en design produit. J'adorais l'époque de Stark aussi, à l'époque, je me rappelle. Et tout ce qui était lié au produit, j'étais fasciné. Et après, je me suis dit, je vais être ingénieur. Non, finalement, je vais dessiner des voitures. Et puis un jour, je suis tombé, j'étais à l'école Boulle, et j'ai un pote qui m'appelle, qui me dit, oui, Johnny, est-ce que tu pourrais pas m'aider? Je dois travailler sur des vitrines pour Vuitton. Je fais, ok, pourquoi pas. Et là, j'ai découvert la marque, et j'ai découvert la maroquinerie. Et là, je me suis dit, en fait, finalement, dessiner un sac, c'est comme dessiner un immeuble. Par rapport aux lignes, aux constructions, j'adorais les perspectives, j'étais un fanatique du dessin. Et j'ai fait ça pour m'amuser, puis après je me dis, ah ben, pourquoi pas, je vais continuer à dessiner moi-même les concepts de vitrine pour Vuitton. Et ça a fonctionné, et j'ai adoré. Et de là, en fin de compte, en dessinant les concepts de vitrine, je me suis dit, tu vas dessiner les sacs. Et donc j'ai commencé, j'ai préparé un dossier. Et c'est à l'époque, en fin de compte, j'ai appelé Yves Carcel en disant « Je travaille pour toi, peut-être que tu ne sais pas, mais j'aurais adoré te présenter ce que j'ai fait. » Alors en plus, j'étais toujours à l'école. Et donc,
tu le tutoies à l'époque? Non.
Non. Non, je ne tutoie pas, j'étais trop intimidé. Et donc là, j'ai présenté mon travail et on m'a pris tout de suite derrière. Bon, une petite anecdote quand même. À la base, en fait, quand j'ai passé mes entretiens, le directeur du studio ne voulait pas me voir parce qu'il a dit « Oh là là, quelqu'un qui arrive comme ça sans qu'il passe en direct par moi. » Mais bon.
Il y a un côté agaçant, ouais.
Agaçant, ouais, ça l'a profondément agacé. Et donc là, il s'est dit « Ah, je voudrais quand même savoir quelle est la tête d'un mec qui s'appelle Johnny Coca. »
C'est vrai que c'est ton vrai nom, Johnny Coca. Oui. Et donc, c'est vraiment un nom de rockstar quand même.
Oh, c'est bizarre, ouais. Johnny, je ne sais pas pourquoi ma mère, pour en espagnol... Je dis, mais pourquoi maman, tu m'as appelé Johnny? Elle me dit, non, je trouvais ça beau. Je fais, ok. Moi, Johnny Coca, c'est la combinaison, c'est clair qu'on l'oublie pas. Et donc, il s'est quand même déplacé, il a vu mon travail. Il a pas été très, très cool. Et deux semaines après, j'avais pas de nouvelles, je l'ai rappelé, je dis, au fait, vous avez des retours parce que ça m'intéresserait. Il m'a dit, ok, c'est bon, tu peux commencer dès le mois prochain. Et donc, j'ai commencé à travailler. J'avais 21 ans pour Vuitton, et là j'ai dessiné, et ça m'amusait. En fin de compte, c'était même pas un travail, en fait. Pour moi, c'était la plus belle école que j'ai eue. Là, j'ai passé mon temps dans les ateliers avec des modélistes. Je me rappelle, il y avait Marie-Carmen, il y avait Raymonde, des vieilles femmes qui connaissaient tout du métier et qui m'ont tout appris. Donc, c'est pour ça que je dis ma plus belle école, c'était Vuitton. Et là, j'ai dessiné de manière un peu insouciante, c'est-à-dire que je sortais beaucoup. J'adorais voir ce qui se passait dans la rue, sortir en boîte. Et là, je me suis dit, ah, c'est un univers inspirant. Regarder les vidéos, la musique. Et là, j'ai commencé à dire, je vais dessiner un sac pour les DJ, parce que j'avais des potes qui étaient DJ. Et j'ai dessiné un sac en référence à mon pote DJ, qui est devenu numéro 1 des ventes chez Vuitton. Et là, il a commencé la carrière. Et j'ai travaillé sur tellement de produits, sur de l'homme, sur de la femme, sur des bijoux. Commande spéciale, je me rappelle encore le projet avec Sharon Stone ou avec Victoria Beckham qui avait son premier enfant. Et ensuite, au bout de 5 ans, j'ai dit, je m'ennuie. Je suis un peu rebelle.
On va diguer un petit peu quand même, parce que tu vas vite en.
Ouais.
C'est en quelle année ça Louis Vuitton, Yves Carcel, etc., qui n'est plus de ce monde.
En fait, c'était dans les 90. C'était juste.
96, non, un truc comme
voilà,
ça.
Voilà, 96, c'était au niveau. Juste au moment, en fin de compte, Vuitton allait lancer le prêt-à-porter et Marc Jacob arrivait.
D'accord.
Il est arrivé un an plus tard. Et donc, c'était une nouvelle ère pour Vuitton. Mmh. Et ce qui était incroyable, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on avait ce côté très relié à l'héritage. Et c'était intéressant de voir comment on allait placer et driver la maison pour en faire une maison mode. Avec le prêt-à-porter, hommes et femmes. Et changer en fin de compte tout l'univers de la maison qui était relié à la maroquinerie pure et dure et au travail du voyage et des malles et en faire quelque chose de mode. Et donc là c'était le grand gap, c'est-à-dire redéfinir tous les codes et essayer de comprendre quelle était la meilleure direction, la meilleure stratégie pour en faire une maison incroyable qui est vue aujourd'hui. Ouais.
Parce qu'à l'époque, c'est beaucoup, beaucoup plus petit, hein, on ne se rend pas compte. Mais
au début, c'était très petit, en fin de compte. Les bureaux étaient à Asnières, le siège était à la Grande Arche, et c'était des toutes petites équipes. Je pense qu'on était peut-être au design, on était peut-être 8 personnes, ce qui était incroyable.
Parce qu'aujourd'hui, ils sont combien ? Vous êtes combien au studio ? C'est fou.
Je pourrais même pas dire le nombre, sachant qu'il y a tellement de départements entre l'homme, la femme, et ensuite on divise par les catégories, par produit. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde.
C'est devenu énorme. Et pardon, à l'époque, quand tu contactes Yves Carcel, c'est quand même audacieux de le contacter, de l'alpaguer. Je sais pas comment tu t'y es pris d'ailleurs.
Comment je t'y ai pris ? Je sais même, je pense que j'ai dû prendre. En fait, à la base, je n'étais pas censé tomber sur lui directement. Je devais tomber sur son assistante. Et son assistante a dû être en déplacement ou elle était en réunion, je ne sais quoi.
C'est lui qui décroche.
Et c'est lui qui a décroché, tout okay. simplement. Et ça veut dire que je n'ai jamais été quelqu'un qui était impressionné par les gens, en général. Donc, j'avais aucun stress de prendre le téléphone et d'appeler directement. Mais je pense qu'il faut aussi avoir... un certain culot, un certain courage et de pas trop se poser de questions des fois en fait. Faut pas être intimidé, faut juste se lancer et prendre des risques.
Et proposer les choses comme elles sont aussi très simplement en fait.
Avec beaucoup d'humilité et vraiment croire en soi et croire en ce qu'on aime et ce qu'on aime faire et est-ce qu'on voudrait aller. Par contre, faut être extrêmement vigilant, se dire que quand on le fait, on doit pertinemment savoir que ce que l'on présente et ce que l'on fait est juste. Et il faut se poser les bonnes questions, il faut aussi énormément travailler. C'est pour ça que j'insiste tout le temps, en général, il faut vraiment travailler pour maîtriser ces sujets et comprendre où est-ce qu'on va.
C'est-à-dire quoi, se poser les bonnes questions ?
On pense que toujours les choses sont acquises très très vite, même quand on est à l'école ou quand on fait des études, on se dit « Ah, finalement... c'est bien ce que j'ai fait. C'est bien. Oui, toi, tu penses que c'est juste pour toi, mais est-ce qu'elle est juste pour les autres ?» Et je pense que le dialogue et la communication avec l'entourage ou avec le corps professoral hyper importante. C'est-à-dire, jamais... Moi, j'ai toujours été un insatisfait. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, qu'on me dit « c'est bien », je me dis « j'aurais dû faire mieux, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu modifier des choses. » Et jamais rester dans sa zone de confort et de se dire que tous les jours, je peux mieux faire demain et encore mieux faire après-demain. Et je me suis toujours dit qu'en fin de compte, il faut absolument maîtriser parfaitement ces sujets pour pouvoir répondre justement.
Comment est-ce qu'on sait que ce qu'on fait est juste ? Il y a un mot dans la mode, on dit toujours « relevant ». Est-ce que relevant, je suis « relevant » ?
Alors, il est « relevant » pour certains. Je ne pense pas qu'il est juste pour tout le monde. Je pense qu'on est juste à partir du moment où on se dit on s'autocritique. Et à un moment donné, quand on va commencer à travailler, à dessiner des produits et qu'on les sort et qu'on voit que ça fonctionne, on se dit ah, finalement, j'ai bien compris en fait ce que les gens attendaient et j'ai bien compris sur quel était mon univers et mon style. Et à partir de là, en fin de compte, on s'autocritique en permanence. Ouais, j'ai toujours eu ce côté comment on peut faire mieux. Et après, se dire que c'est juste, c'est très personnel. C'est-à-dire que chacun, moi, je vois en fait en termes de proportion, en termes de structure, en termes de main, en termes de look, je peux dessiner 10 sacs et sur les 10 sacs, je veux dire celui-ci il est juste et le reste c'est bien. Mais celui-ci est beaucoup plus juste et plus fort. Donc, faut avoir un sens extrêmement critique de soi-même. Et ce qui est toujours intéressant aussi, c'est d'écouter, de voir ce qui se passe autour de vous et poser des questions. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, quand je dessine, je vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas ou quand ce n'est pas abouti, je dis ok, c'est très bien, j'attends et je continue à travailler dessus. En fait, on le sent, en fait, quand on est juste et...
Quand c'est bon.
Ouais.
C'est quoi ton processus créatif, là? Parce que Et comment est-ce que tu travailles aujourd'hui? On reviendra après, hein, sur ton parcours, etc. Mais comment est-ce que tu travailles aujourd'hui? Où est-ce que tu as appris ces bases-là?
Mon processus créatif, on va dire, c'est la rue. Déjà, la première chose, c'est... J'adore regarder les gens dans la rue.
Tu passes beaucoup de temps dans la rue?
J'aime bien mettre en terrasse, au café et voir les attitudes. Bon, après, à Paris, c'est assez intéressant parce qu'il y a énormément de touristes aussi.
Ouais.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas toujours rester dans le même quartier.
Oui, tu vas où alors?
Il faut aussi jouer dans quasiment tous les quartiers, en fait. Dans tous les quartiers, on découvre quelque chose de différent, des attitudes, des looks différents. Mmh. Si on est dans le 4e, il y a quelque chose de particulier. Dans le 6e, c'est autre chose. Dans le 19e, c'est autre chose. Dans le 17e, c'est autre chose. Quand on le voit dans le 15e, c'est encore un autre univers. Donc dans le 20e, c'est hyper intéressant aussi.
Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas prendre des cafés à gauche, à droite?
Je prends des cafés, j'ai retrouvé des amis, ils me disent où est-ce que tu vas aller. Je dis on va faire une terrasse de café. Je préfère les bistrots que les grands restos. Mmh. Je trouve ça un peu plus cool et plus easy. Et là, en fin de compte, je regarde ce qui se passe. Je regarde les gens et je me dis ah, le look est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit encore plus cool? Ou l'attitude de la fille est bien. Et elle porte ses produits, ses vêtements, son look est assez juste. Et en fait, ça vous inspire en fin de compte. Et je pense que c'est toute une histoire d'attitude et d'intention et d'envie. Et la chose aussi, c'est de se dire aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est dans la rue, en fin de compte, on a toute la clientèle, on a tous les âges, des jeunes comme des personnes plus âgées. Et en fait, les clients, c'est tout le monde. Il n'y a pas de différence d'âge. Et en fin de compte, finalement, en fait, on essaie de capter des attitudes, des portées, des envies que je peux avoir en me disant demain, de quoi les gens auront envie de porter. Et en fait, c'est dans la rue qu'on voit le mieux. Parce qu'en fait, cette espèce de mélange multiculturel de toutes ces personnes. Et moi, ça me fascine, en fait.
Et Paris est un bon étalon or, je sais pas quel terme c'est, mais pour parler au monde entier.
Alors je dis pas que Paris c'est la référence, mais c'est une référence. Mais je pense que c'est drôle quand on va à Milan, ouais, quand on va à Florence, quand on va à Rome, quand on va à Madrid, quand on va à New York, en Asie, au Japon, à Tokyo, à Shanghai, en Corée, à Séoul. En fait, partout où vous allez, en fin de compte, il y a une culture qui est tellement différente. Il y a toujours des choses qui sont quand même rattachées. Mais on découvre toujours quelque chose de différent. Et en fait, ça, c'est important. Le voyage est important. Mais après, est-ce qu'il y a une ville, Londres, est intéressant aussi. Mais c'est drôle aussi de vivre le jour et la nuit. Parce que les filles du jour ou les gens dans la journée ont un look beaucoup plus posé. Et le soir, c'est encore autre chose. Et j'adore ce côté découverte.
Alors, tu voyages beaucoup et tu vas boire des cafés dans tous ces coins.
J'essaye de voyager quand je peux. Après, là, c'est clair que je n'ai pas trop le temps parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de travail. Mais dès que je peux, j'essaye de bouger. Même si ce n'est pas très loin, même si je reste en Europe, c'est plus pratique faire des week-ends et découvrir. Ça vous change la tête et en même temps ça vous donne une ouverture d'esprit qui est différente. Et donc finalement quand je rentre chez moi, je me pose et c'est vrai que dans la journée j'ai du mal à dessiner parce qu'en fin de compte je passe beaucoup de temps en meeting, en travaillant sur les produits, mais le soir c'est mon espèce de moment à moi où j'essaye de projeter dans ma tête de quoi j'ai envie et quand je dors je dessine en fin de compte les produits en 3D dans ma tête. Et le lendemain matin, quand j'arrive, je fais rapidement mon dessin, mon sketch. Et là commencent les choses. Des fois, c'est juste des proportions, c'est des détails, c'est des volumes. ou c'est des envies, ou... c'est assez particulier. Mais c'est vrai que le soir, c'est le moment, le, créativement parlant, le plus important. Mmh. Et l'autre moment, ce qui est drôle, c'est quand je prends ma douche. Quand je prends ma douche le matin, c'est le moment où je me réveille et j'ai l'impression d'être propre et toutes les idées émergent. Et j'arrive au bureau, en fait, je suis extrêmement au taquet et je commence à dire j'ai pensé à ça, donc je discute avec mon équipe et j'essaie de leur faire passer tous les messages créatifs que j'ai eu. Ouais.
C'est marrant. Et ce truc, tu l'as depuis toujours ?
Ouais. J'ai toujours, étrangement, réussi à dessiner toujours en trois dimensions dans ma tête. Donc en fait, j'ai juste à remettre mon stylo sur un papier et je redessine ce que j'avais projeté pendant la nuit. Ouais.
Et ça se fait automatiquement. Enfin, c'est assez instinctif comme truc.
Ouais, c'est assez direct en fait. L'idée est précise et je pose, je dis voilà, j'ai envie de ça.
Ok. Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on arrive à un produit fini qu'on met sur l'étagère ?
Alors, après je travaille avec mon équipe, je leur donne le sketch ou les intentions, ils vont retravailler, ils vont retracer. Je vais corriger le dessin, on va revoir les détails en termes de construction, en termes de cuir, de choix matière, de pièces métalliques. Et on va redessiner tout ça. Et ensuite, quand on a le dessin technique qui est prêt... on va le lancer auprès des modélistes. Mmh. Et là, ils vont travailler sur des volumes pour faire des premières maquettes. On va revoir les proportions. Et ensuite, on va le réaliser en cuir. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Nos limites, jusqu'au moment où le sac est parfait. Et toutes ces phases de correction, en fait, vont permettre de mettre au point pour que le produit soit le plus abouti. Mais c'est vrai que créativement parlant, ce que j'adore, c'est le premier dessin, mmh. la première maquette. Et ensuite, quand vous arrivez avec la collection qui est livrée, avec le produit définitif, la partie intermédiaire, c'est beaucoup de travail de mise au point, de proportion, de portée, de structure, de main, de cost, de toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que les moments les plus phares pour moi, c'est le début et la fin, parce que j'ai l'impression que c'est Noël tous les jours. Mmh. Et on reçoit... toute la collection finalisée, et là c'est magique. On dit waouh, c'est beau. Des fois on dit ah, je pensais que ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave, je le garde pas. Mais globalement, c'est le moment le plus excitant de faire découvrir mmh. aux équipes ce qu'on a dessiné pour la collection, pour la saison. Mmh.
Comment est-ce qu'on se renouvelle dans ce... Ça paraît toujours fou de se dire on peut encore faire des nouveaux sacs, ouais. Qui sont surprenants, qui vont être des best-sellers.
Alors les gens me disent mais comment tu t'arrives à tout le temps avoir des idées? En fait, les idées, il y en a tous les jours en fait. Je pourrais dessiner tous les jours. Je me suis jamais posé de questions. La chose importante que je me suis dit, c'est ne regarde jamais ce que font les autres, mais pense à toi, pense à ce que de quoi tu as envie, et pense aussi à l'univers de la maison où tu es. Et c'est vrai que souvent dans le milieu de la mode, il y a beaucoup de gens qui copient les uns les autres, ça se voit en deux secondes. Et je sais que même à l'époque quand j'étais chez Céline, je voyais tellement de sacs qui étaient copiés, mais bon, c'est pas grave. Mais au final, ouais, je me suis toujours dit il y en a beaucoup qui travaillent sur les vintage aussi, ce qui est bien et pas bien. Mais je préfère partir de rien et construire. Partie d'une maquette et vous retravaillez les proportions, la construction. En fait, vous partez à zéro. Et c'est ça qui est intéressant. Et finalement,
mais c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression, quand même, non ?
Ça ?
Cette école de partir de zéro, de rien.
Ouais, c'est rare. Ouais.
J'ai fait un peu ce métier, mais partout où je passais, on partait quand même pratiquement à chaque fois d'une maquette, quoi. D'un vintage.
Ouais, moi, les vintage, non. De toute façon, tout le monde connaît tous les vintage du milieu, donc tout le monde a tourné autour. Donc quand vous en copiez un, vous êtes repéré en deux secondes. Donc il vaut mieux éviter. En tout cas, moi, je déteste ça. Mais je dis tout le temps, en fin de compte, c'est les accidents. En fait, je dis tout le temps, quand je dessine un produit, en fait, je cuisine. Je vais travailler la construction d'un volume, je vais travailler la matière. Je vais travailler les pièces métalliques, je vais travailler les signatures, je vais travailler la main du produit. Donc finalement, en fait, j'essaie d'avoir tous ces ingrédients et en fait, je vais cuisiner pour arriver à quelque chose d'inattendu ou de différent.
De nouveau.
Mais c'est vrai que partir de zéro, je trouve ce qu'il y a le plus intéressant en fait. carte
c'est
blanche,
plus difficile
page
aussi.
Blanche. Mmh. Oui, c'est plus difficile, mais au fait, au final, vous êtes sûr d'arriver sur quelque chose qui soit inattendu ou un peu surprenant. Ou, alors après, les classiques, ça reste des bons classiques, je dis pas. Il y a des fonctions qui restent des vraies fonctions. Un taut, c'est un taut.
Un crossbody, ouais.
Voilà. Mmh. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours des références à. Mais c'est comment vous allez l'aborder, comment vous allez le détourner pour pas que ce soit un produit qui soit ordinaire. Et qu'est-ce qui va faire que le produit a un look particulier, a une signature particulière, a une proportion particulière. Et je pense que tout est relié à la construction, à la proportion, à la matière, comment on va jouer sur ces différents éléments pour qu'on arrive à quelque chose qui soit différent de la concurrence.
Tu regardes pas du tout la concurrence ?
J'aime pas trop.
Ouais.
Les défilés. Si je vois les défilés, parce que j'adore voir les défilés, j'adore les maisons, j'adore les marques.
Ouais.
J'adore plein d'univers de maisons. Donc c'est clair que je vais regarder ce qu'ils font. Mais j'ai plutôt regardé l'univers global, des silhouettes, que de me poser profondément sur un produit. Après, effectivement, je vais dire, ah, effectivement, telle maison a fait un bon produit. Un beau sac, ou une belle pièce, ou une belle paire de lunettes. Donc là, je vais dire, ah, effectivement, et je serai le premier à les acheter. Hein. Je ne porte pas que du Vuitton, j'achète de partout. Et j'adore mélanger. Mais c'est vrai que, en plus, quand ils l'ont fait, on dit, OK, il n'y a aucun sens de suivre. Il ne faut jamais être suiveur, en fait. Il faut toujours être le... tout le temps faut arriver à apporter ce que les autres ne font pas.
Donc il faut quand même écouter ses tripes, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction?
Faut juste croire en soi et se dire j'aime ce que j'ai dessiné et je pense que c'est juste et ça m'intéresse et j'ai envie de l'aboutir.
Aujourd'hui t'es respecté forcément parce que t'as un background, t'as fait beaucoup de t'as plein d'achievement, voilà. T'as fait des best-sellers en voiture, etc. Mais au début, comment est-ce qu'on... Parce que dans ces maisons, il faut quand même défendre son sac auprès de la direction, auprès du marketing, auprès de tous ces gens qui tirent les ficelles du marketing, en tout cas.
Ouais.
Comment est-ce qu'on a l'aplomb, quand on est jeune designer, de dire, moi, je crois à ce truc-là, il faut aller jusqu'au bout?
Alors, il y a deux écoles. Bon, après, chaque maison est différente. Il y a des maisons où le marketing est très présent. Et d'autres maisons, en fait, où on laisse le design faire les choses. Et c'est vrai que chez Vuitton, le design a une énorme liberté. Et je pense que les chances qu'on a avec les autres départements, ou même avec le marketing, moi, j'ai jamais été là à survendre quoi que ce soit. Mais s'il est évident pour moi, il est évident pour eux. Et si on fait un produit qui est juste, on n'est pas là en train de le vendre. Ils vont le capter tout de suite, ils vont dire « Ah Johnny, ça c'est vraiment bien. » Mais la même chose, je pense la même chose. Donc finalement, en fait, moi je dis tout le temps, quand le marketing est là en train de râler, c'est juste qu'en fin de compte, peut-être que pour certaines maisons, certains designers n'ont pas réussi à apporter ou à amener le produit juste business-wise ou style-wise. Si on commence à survendre un produit, déjà...
Si c'est au forceps, c'est pas bon.
On va pas forcer, en fait. Ouais. On se dit qu'on le dessine pour les femmes et pour les hommes en général. Et si c'est une évidence, si le produit est juste, tout le monde va dire « je l'adore ». Et alors, finalement, quand certains... Ça m'est arrivé des fois à dire « je pense qu'il faut vraiment le sortir ». Oui, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Ok, effectivement. Mais il y a des produits qu'on dessine et c'est peut-être pas le bon moment parce que la clientèle va pas comprendre. Mais si je le sors dans 3 saisons, ça va fonctionner. Donc, il faut savoir aussi comprendre pour qui on le fait et pour quelle maison on le fait. Mais oui, moi, j'ai toujours eu... comme je dis, en fin de compte, le succès d'une équipe ou du designer... Elle est faite aussi parce qu'en fait, on est extrêmement encouragé, on est extrêmement soutenu par le market aussi, en fait. Mais moi, j'ai un rapport qui est tellement génial avec les gens avec qui je travaille au bureau, où en fait, tout est évident, en fait. On se dit les choses, il n'y a pas il y a jamais de compromis. On y croit, on y va. On n'y croit pas, on n'y va pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Et on va toujours te demander, tu en penses quoi, Johnny ? Et je leur dis, je trouve ça pas mal, mais je pense qu'on pourrait mieux faire, donc je préfère ne pas y aller. Et même des fois, ils peuvent me dire, ah, on peut y aller. J'ai fait, je pense qu'on peut faire encore mieux. Donc, il faut savoir s'écouter à ce niveau-là. Mais oui, c'est vrai que le market dans les maisons a toujours une image positive ou négative. Mais je pense qu'il faut savoir écouter, il faut savoir comprendre et il ne faut pas forcer les choses. Si on est juste, c'est juste pour tout le monde.
Si on est juste, c'est juste pour tout le monde. Donc après 5 ans chez Louis Vuitton, tu quittes le Vuitton, pourquoi d'ailleurs ?
J'étais au bout de 5 ans, je dis ah c'est bon, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de bouger. Et là on m'a dit ah non, il ne faut pas que tu partes. J'ai fait si, j'ai envie de changer. Et donc là on me dit ah ben si tu veux, il y a Michael Kors qui est arrivé chez Céline. Et est-ce que tu veux reprendre la direction de toutes les catégories ?
C'est fou, t'as quel âge à l'époque ? T'es super jeune.
26 ans.
T'as 26 ans.
Ouais.
Et ça paraît fou d'avoir autant de... Enfin, de monter les échelons aussi rapidement.
Ouais, je me suis pas posé la question en fait. Je me suis pas posé la question, on m'a dit est-ce que tu veux reprendre la maro, les choses, les bijoux, les lunettes, les licences ?
Je veux dire qu'à l'époque, t'es dans le bon ascenseur avec Marc Jacob qui est au top du game, qui
voilà,
explose.
Voilà, et l'univers de Michael Kors, c'était hyper intéressant. Avec Gisèle en campagne en permanence, j'adorais. Mais c'est vrai que j'étais un côté un peu insouciant en fait. Quand on est jeune, on fait des choses et on s'amuse. Et j'ai toujours pris ça vraiment en me disant que c'était pas un boulot en fait. C'était vraiment... Je m'amuse en fait. Et j'ai toujours voulu faire des choix en me disant c'est un travail effectivement, mais je dois prendre du plaisir et m'amuser dans ce que je fais avec les équipes, avec le développement, avec les artisans et apprendre. J'ai toujours voulu apprendre année à année et me dire que j'étais pas que j'avais toujours des choses à apprendre et que j'étais toujours à l'école, même quand j'avais des positions. Mais quand on apprend tous les jours, c'est hyper excitant en fait, en disant ah ben je vais aller dans telle usine, je vais voir tel fournisseur, je vais voir telle personne. Donc c'est hyper intéressant de se dire que on est là, mais on travaille et on découvre de nouvelles choses, des nouveaux process, des nouvelles matières, des nouvelles personnes. Et donc voilà, donc là j'arrive chez Céline et je suis parti pour 5 ans.
5 ans encore.
Jusqu'au moment où il part. Je me suis vraiment amusé. C'était assez costaud parce que quand on est jeune, c'est beaucoup de sujets, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris à travailler sur les chaussures, j'ai appris les lunettes, j'ai appris tout ce qui était partie soie, j'ai appris toute la partie bijoux. Je suis allé voir tous les fournisseurs. Donc ça a été une deuxième et bonne école parce qu'en fin de compte, ça m'a permis de découvrir tous les process industriels, aussi bien en termes de production, de réalisation, de matière. Donc c'est dire voilà, je vais découvrir, je vais apprendre. Ouais.
Trop bien. Ensuite, tu pars chez Balis, ça ?
Ouais.
Pareil. Mais là, tu quittes le groupe ?
Là, je quitte le groupe parce qu'en fin de compte, je voulais apprendre à parler italien.
Ah.
Et je me suis dit, dans le milieu, c'est quand même bien de parler italien parce que tous les fournisseurs, il y a quand même beaucoup de fournisseurs qui sont en Italie. Et là, je rencontre une femme qui était Dan Melo, qui était l'assistante, le bras droit de Tom Ford, et qui me contacte. Il me dit, oui, est-ce que tu ne pouvais pas reprendre la direction artistique de la maison ? J'ai fait... Why not? C'est beaucoup de chaussures, beaucoup de maraud. Je dis, mais pourquoi pas? Ça peut être drôle. Je dis, c'est basé. Je dis, c'est bon, c'était basé en Italie. Et je rencontre Domenico De Sole, je rencontre Tom Ford qui faisait partie du comité d'administration. Et donc, je rencontre toutes ces personnes-là. Et je trouvais que le projet était fabuleux parce qu'en fin de compte, la maison n'était pas dans une bonne situation. Et on me dit, il faut absolument que cette maison soit positive à tous les niveaux. Parce que l'objectif c'était de repositionner la marque et que cette maison puisse générer quelques millions et millions d'euros. Et je trouvais que le challenge était drôle en fait, ça m'amusait.
T'as 31 ans à l'époque.
Ouais. Et donc là, je dis ok, on y va. Et puis ça a été, je crois, 4 ans, ouais. 4 ans. Hyper intéressant. Et ça a hyper bien marché. Et ça a tellement bien marché qu'à la fin, ils ont vendu la maison. Ce qui a été tellement positif en chiffres. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment pour moi de partir. Et parce qu'en fait, finalement, j'avais juste bien répondu.
T'avais fait le travail, ouais.
Ouais.
Et alors juste peut-être pour s'arrêter là-dessus, parce que c'est quand même un gros achievement, pour le coup tu retournes une maison et t'arrives à en faire une maison qui gagne de l'argent.
Ouais.
Comment t'as approché le sujet?
J'essaie de comprendre déjà quelles étaient l'origine de la maison, quels étaient le vrai héritage de cette maison-là, qui était la chaussure, et ensuite la maro, et quels étaient les clients qu'ils avaient aujourd'hui et quelle clientèle on voulait avoir. Et j'essaie de me reposer toutes ces questions-là en essayant de redéfinir, redessiner des collections qui puissent couvrir les besoins du marché par rapport à la clientèle qu'ils avaient envie d'avoir. Et je suis reparti sur les archives. Je suis allé dans les archives de Bali à l'époque. Ils avaient une collection mais incroyable. Et je dis, en fin de compte, il ne faut pas aller trop loin. En fin de compte, il faut juste
réouvrir les coffres.
Réouvrir les coffres forts et juste retravailler autour de ça. Parce que c'était la période la plus faste de la maison. Et je dis, vous avez une richesse en termes de design qui est incroyable. Et donc on va redéfinir tout ça. Et donc, saison après saison, en fait, on a augmenté les volumes, le chiffre, et voilà.
Et toi, tu t'occupais de l'image, enfin, tu étais directeur artistique de Bali?
Alors, je gérais toute la partie, une partie image, la partie homme, la partie femme, les choses, tous les accessoires, la maro, toutes les catégories. Mmh. Ouais.
C'est fou.
Ouais, c'était.
C'est marrant parce que tu parles avec beaucoup d'humilité dans tout ce que tu fais et t'as vraiment un côté où je fais le travail parce que. Enfin, je fais le taf quoi.
Ouais,
tu te la racontes pas.
Non, en fait, moi le travail c'est un plaisir donc. Et en fait, mon plaisir c'est de travailler et créer et partager avec des équipes et m'amuser avec eux en réfléchissant sur qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit cool, qui soit juste et qui soit beau. Et. En prenant en compte évidemment tous les paramètres de style, de prix, parce qu'il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Mais ouais, c'est... Ouais, je me pose juste les bonnes questions et j'essaye de répondre à ce qu'on attend de moi aussi indirectement.
Parce que quand on t'écoute et qu'on te regarde, on a l'impression que c'est facile en fait.
Non, c'est beaucoup de travail. Ah, je commence le matin à 9h, je travaille tous les week-ends, je finis les soirs à 10h. Mais en fait, je le fais parce que ça me plaît.
C'est quoi ton drive? Qu'est-ce qui te drive? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais là? Tu bosses comme un fou comme ça?
J'aime créer et j'aime que ce que je fais soit successful. Et j'aime voir les gens autour de moi porter ce que la maison propose. Et j'aime aussi voir que la maison grandit et que ce que je fais et ce que l'on fait tous ensemble avec les équipes soit positif et fasse que la maison soit plus profitable. Et si la maison profitable, c'est-à-dire qu'en fait on a tous bien travaillé et ce qu'on a fait était juste et c'est génial.
T'es ambitieux?
Comme je suis un insatisfait, oui.
Ouais.
Je veux toujours que ce soit plus et plus et plus.
C'est quoi Pardon, vas-y.
Non, c'est... Quand je dessine, je dessine beaucoup parce qu'en fin de compte, je veux juste voir ce que je peux faire et pouvoir choisir.
C'est quoi la destination? Enfin, c'est quoi ton but ultime?
Mon but ultime?
Ouais.
Me faire plaisir et voir les gens prendre du plaisir. Ouais.
C'est très généreux comme truc. Enfin, très, très perso et généreux en même temps.
Ouais, je...
C'est se faire kiffer et faire kiffer les autres.
Ouais. Je les vois quand ils viennent et qu'ils sont excités parce qu'ils vont dire « Je veux absolument ce produit-là. Waouh !» J'ai dit « Ah, c'est cool. » En fait, ils sont tellement contents. Et puis moi, je suis content de mes échanges que j'ai au quotidien avec toutes ces équipes et avec tous ces interlocuteurs. Et c'est riche. En fait, je m'ennuie jamais.
Ensuite, donc après Bali, tu retournes chez LVMH, ça?
Ouais.
Raconte-nous.
Je quitte et je signe pour une autre maison. Et finalement, en fait, le groupe me rappelle en me disant « Est-ce que tu veux revenir ?» J'ai dit « Ouf !» Il dit « Chez Céline ?» J'ai fait « Ah non, c'est bon, j'ai déjà fait 5 ans avec Michael Kors. J'ai pas envie de retourner là-bas. Et puis je me souviens de il y avait Pierre-Yves Roussel qui me rappelle, oh, tu devrais quand même passer une tête pour voir. Et je rencontre aussi une amie qui est PDG de chez l'OEV, Pascal Le Poivre, et qui me dit, ah Johnny, ça serait super si tu pouvais rencontrer Phoebe qui venait d'arriver. Et je dis ok, pourquoi pas, bon ça me coûte rien de la rencontrer, sachant que j'avais déjà signé ailleurs. Et là je la rencontre à Londres, et donc j'échange avec elle pendant une heure et demie, et je parle de mon univers propre à moi, parce qu'en fait il y a toujours l'univers qui est associé à la maison où vous travaillez, et ensuite parce que ça qui est important aussi pour être un bon et un juste designer, c'est comprendre l'univers et la philosophie d'une maison. On travaille en respectant certains codes et en essayant de driver sur une direction particulière. Et donc là j'ai discuté avec Phoebe et elle me dit en fait c'est quoi mon univers en fin de compte. Et donc je dis, mon univers personnel, c'est vraiment cette typologie de produits là, ce mobilier là, ces maisons là. Et donc j'étais là en disant, j'adore l'univers de Misandero, de Kuramata, de Memphis, de l'univers à l'époque de ça, de Prouvé, j'adore l'univers des voitures, j'adore l'architecture. Et donc en fait on échange de ça, et en fait compte on se rend compte qu'en fait on avait énormément de points en commun, et elle me parle, et là très étrangement c'est comme si j'ai eu un coup de foudre. J'ai trouvé magnifique et j'ai trouvé brillante, et là je me suis dit waouh, en fin de compte ça va être vraiment cool de travailler avec une femme pareille qui avait une vision très claire d'où elle voulait aller, et en même temps d'une humilité, d'une simplicité incroyable. Et ouais, je tombe amoureux d'elle en fait, et je me suis dit ok, why not, allez on y va. Et là je commence sur la Maro une saison, et au bout d'une saison Phoebe me dit c'est bon, vas-y, tu peux prendre toutes les catégories, on est aligné. Et donc c'est là en fait on a lancé, et en fait elle me faisait confiance en fait, et en fait dessiner en fait pour Céline et pour Phoebe, c'était, je posais pas de questions en fait, je dessinais juste ce que j'avais envie de faire, et ce que j'avais envie c'était relié à l'univers de Phoebe. Et donc finalement s'il y avait une espèce de simplicité dans, aussi bien quand je travaillais sur les lunettes ou sur les bijoux, sur une simplicité de la ligne, des proportions, de la couleur, des constructions, de l'attitude. Et pour ça, elle était extrêmement brillante. Et moi, j'avais un plaisir énorme de lui faire plaisir. Étrangement, en fin de compte, j'étais content quand elle était contente. Et quand elle n'était pas contente, j'allais la voir en disant « Pourquoi tu n'es pas contente ?» Et on parlait. Et je dis « Non, il n'y a pas de souci. » Si tu penses que en fait tout est possible, avec moi tout est possible, there is no limit, je dis tout le temps en fait, si on veut quelque chose on peut le faire, et c'est une histoire de volonté. Donc si je dois recommencer un truc, je le refais, parce que si c'est mieux je le refais, et si on veut rajouter on rajoute, et il suffit d'être juste conscient techniquement, timing wise, de ce qu'on fait, mais il faut connaître parfaitement tous les paramètres d'un produit en termes de process et de développement, et on comprend combien de temps on peut mettre, et le temps le plus incompressible, et se dire voilà, ça en 3 jours je peux le sortir, ça en 2 semaines je peux le sortir. Donc il faut comprendre tous les process derrière pour pouvoir donner. Et ce qui était hyper intéressant, c'était que son univers c'était no discussion, no concession, j'ai adoré, c'était on y croit, on y va. Et on ne fait aucune concession sur quoi que ce soit. Et voilà. Donc, ça a été magique. C'était une parmi de mes plus belles histoires. C'était d'avoir dessiné et créé tous ces produits. Qui étaient d'une simplicité en même temps, mais qui étaient intelligents dans le look, dans l'attention, dans la construction, dans la couleur, dans les formes. et c'était son univers, c'était aussi une partie de ce que j'aimais, de mon univers aussi.
Trop bien. Vous avez sorti quand même des sacs iconiques, le trapèze, le classic box.
Ah oui, oui. Les sacs, les trapèzes, les belts, tout. J'ai tellement fait de, je me rappelle même plus de tous les noms. Mais ouais, nous, on a sorti beaucoup de choses. Le catch fantôme, toutes ces choses-là. Mais c'était, non, c'était. Bon, en fin de compte, on s'est jamais dit qu'on allait dessiner des produits pour dire que c'était best-seller, en fin de compte.
Vous avez vu,
on dessinait
envie de ça,
juste, ouais. On avait envie de ça. Et qu'on trouvait que c'était juste, que l'attitude était sympa. Et ce qui était intéressant, c'était nouveau. Et là, c'était vraiment, quand je parlais de ne pas regarder ce que fait la concurrence, là, c'était vraiment ne pas prendre de vintage. Là, c'était vraiment l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'on partait de rien. C'est-à-dire qu'au moment, on était sûr que ce qui allait sortir allait être quelque chose d'inattendu. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, peut-être tout le monde s'attendait à dire « qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore ?» Mais c'est vrai que c'était hyper intéressant pour ça, c'était de se poser les bonnes questions, créativement parlant. Pourquoi on fait quelque chose et pourquoi on le dessine de cette manière-là, et qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va apporter par rapport au client? Qu'est-ce que ça va apporter par rapport à la femme? Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter dans l'univers de la mode, en fin de compte? Comment apporter une modernité avec une simplicité, avec un côté sophistiqué, qui était élégant, qui n'était pas obvious, et en même temps qui parlait à plein de monde. Donc un produit qui était intelligent et en même temps qui était assez low profile, mais qui avait ce truc en plus qui faisait que, en fin de compte, le produit était désirable. Tout simplement.
Tout simplement. En toute simplicité.
Complètement.
Donc tu as côtoyé tous ces gens là et j'imagine que tu es fait de ce bois-là aussi, mais quand tu travailles avec Marc Jacob, avec Nicolas Ghesquière, avec Phoebe Philo, tu croises Tom Ford, etc. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, de plus que les autres?
Une gentillesse, une simplicité, une honnêteté, un sens créatif extrêmement précis et juste par rapport à leur univers. Ils aiment la mode, ils ont ce côté un peu individualiste, ils aiment le beau, ils sont extrêmement respectueux de beaucoup de choses, du designer, des équipes. C'est vrai que c'est important de les comprendre. Et en même temps, c'est important de leur montrer ce qu'on arrive à faire et ce qu'on sait faire. Mais ouais, en général, tous ces gens-là, il y a... J'ai jamais trouvé rien d'arrogant sur ces gens-là, en fin de compte. Ces personnes-là, c'est des gens qui veulent exprimer leur univers, leur créativité, leur envie d'eux. Développer et poser des questions sur la mode aujourd'hui, la mode demain, et comment aussi apporter ce quelque chose de personnel pour marquer un moment d'histoire dans une maison. Et surtout, ils sont extrêmement respectueux de leur travail, respectueux du travail des autres. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens incroyables. Mais je suis jamais tombé sur des gens compliqués, en fait. Je pense que j'ai toujours été hyper attentif pour que je me sente bien. Et de toute façon, je ne travaille qu'avec les gens que j'aime. Et avec des maisons que j'aime, avec des présidents que j'aime, avec des personnes du market que j'aime. Et pareil, moi, Phoebe, Michael Kors, Tom Ford, Nicolas, ce sont des gens qui sont vraiment des belles personnes. Ouais.
Trop bien. Je sais plus ce que je voulais dire, mais j'allais rebondir sur ce que tu me disais. Tant pis, je passe à la question suivante. Donc après, c'est à ce moment, enfin, pourquoi ça s'arrête, Céline, pourquoi tu pars de Céline à l'époque?
Parce que je savais que Phoebe allait partir.
Ah, ok. T'as préféré partir avant.
Exactement.
Ok.
Je savais qu'elle allait partir. Donc.
Pourquoi? Ouais. Ouais, je sais pas si tu peux en parler, mais pourquoi ça s'est arrêté?
Euh... c'est des choses qui sont très personnelles en fait. Mmh. Je pense que Phoebe, c'est une personne qui est extrêmement juste, extrêmement sensible. C'est quelqu'un qui aime la mode, qui aime la création. Et il y a des moments où les personnes ont besoin d'une pause. Mmh. Qui ont besoin aussi de se poser les bonnes questions, tout simplement.
Ouais. Ouais, c'est aussi simple que ça.
Tout simplement, en fait.
Mmh. Et qu'est-ce qu'elle va faire alors maintenant?
On va le voir bientôt.
Bah oui, on attend ça avec impatience.
Ça va arriver là, ouais. Dans quelques mois.
T'as été dans les petits papiers, je suis sûr, tu sais tout. T'as tout vu déjà.
Non, ça sera à l'image de Phoebe avec son univers, son bon goût, son talent et on va toujours adorer. Ouais, elle est très très juste dans ce qu'elle fait et très respectful par rapport sur quoi elle veut aller en fait. Elle a une idée très précise et elle ne fera aucune concession sur quoi que ce soit. Et si elle fait quelque chose, c'est qu'elle pense que c'est juste et elle y croit. Tous ces produits seront à l'image de Phoebe. Ouais.
Tu pars chez Mulberry après, c'est
ouais.
Ça t'as une, on sent quand même une pointe de nostalgie parfois quand même, non? Ça doit être dur de quitter des histoires aussi fortes comme ça, comme ce que t'as pu vivre avec Phoebe.
Ouais.
Comment est-ce que c'est un peu starting over quoi.
Nostalgie, oui, il y a toujours une nostalgie parce que je l'ai trouvée incroyable. Mais je me suis dit que j'avais encore des choses à apprendre. Et c'est vrai qu'en maîtrisant beaucoup de sujets, beaucoup de disciplines, beaucoup de produits, beaucoup de process, et connaissant tous les sujets sur toutes les catégories, je me suis dit qu'est-ce qui me manquerait en fin de compte pour apprendre. Toujours le même problème, c'est qu'il faut que j'apprenne tous les jours. De quoi j'ai envie d'apprendre, et j'avais envie d'avoir une maîtrise plus importante sur... la stratégie et comment driver une maison et avoir une carte blanche sur la totalité, comment communiquer, comment gérer un show, comprendre en termes de coûts, comprendre en termes de communication, comprendre en termes de stratégie, de livraison, d'achat. Et donc je trouve ça hyper intéressant d'apprendre autre chose en fait. Parce que je savais pertinemment de maîtriser ces autres sujets-là permettait ensuite d'aller sur un autre step. Donc, je me suis dit, j'avais envie de ça. Même si j'aurais très bien pu rester dans mon groupe. Mais je me suis dit, c'est bien de découvrir autre chose et d'investiguer sur d'autres territoires. Et l'idée de partir à Londres, qui reste toujours une ville riche culturellement parlant, je me suis dit que ça peut être une opportunité. Et la maison, qui était une maison emblématique anglaise, je me suis dit, mais pourquoi pas revoir un peu les codes et faire un peu bousculer le côté trop peut-être sage de l'époque. Et donc voilà, donc je me suis dit, ok. Je vais y aller, je vais essayer de voir comment je peux m'amuser, comment je peux apporter un peu ma vision et ma stratégie derrière, et puis on verra. Donc me voilà parti à Londres.
Mulberry, là tu es directeur artistique de l'ensemble de la maison.
Ouais.
C'est toi qui signe, enfin qui salue à la fin du show. Mm-hmm. Tu fais du pré-tap, tu fais de l'accessoire. Ouais. C'est quelque chose de nouveau encore, le pré-tap, c'est quand même deux métiers quoi.
Oui, mais après ce que je dis c'est que tout pareil, c'est tout est lié à l'image, à et même par rapport au prêt-à-porter, c'était avoir une image claire de quelle pourrait être la femme Mulberry en termes de quand on a déjà abordé toutes les matières et les techniques sur tous les sujets en parlant des chaussures, des structures, des lunettes, des bijoux, des... En fait, techniquement parlant, en fin de compte, je connaissais déjà assez bien les, les matières. Donc là, c'était de travailler sur... Après, on n'est pas tout seul, on a aussi une équipe derrière. C'était d'essayer d'apporter une vision de la femme pour Mulberry, en essayant d'apporter une construction particulière sur le vêtement, travailler sur des matières, sur des codes, sur des références anglaises, et essayer de créer un univers global, cross-catégorie, aussi bien avec le prêt-à-porter, les accessoires, la maro, les choses. Donc c'était assez riche. Et ensuite, c'était comment le communiquer, comment faire que la maison ait plus de visibilité, parce que c'était une maison qui était très anglaise, qui était moins connue en France et en Europe, si beaucoup sur les pays nordiques, plus en Asie, Corée, énormément. Donc c'était intéressant de réussir à réimposer une image d'une marque anglaise avec un produit qui reflétait l'univers, qui était relié même par rapport au premier show, à des références anglaises qui étaient punk rock, décalé. Il y avait ce côté un peu joué avec les matières, les couleurs, les imprimés. Donc j'essaie de toujours travailler en reprenant des codes anglais. Parce que je me suis dit, c'est une maison anglaise, à quoi bon, je ne sais pas, commencer à rentrer, à travailler sur une direction qui est plutôt extrême, plus radicale. Et je me suis dit, si la clientèle aujourd'hui et cette maison tellement anglaise, joue avec tout ce qu'il y a autour de ça en fait. Donc voilà.
Et donc toi, quand tu te fais recruter par Mulberry, c'est ta vision, c'est cette vision que tu vends et c'est pour ça qu'ils te prennent.
Oui.
Ouais. Et y a quand même ce travail de... C'est quand même un duo à chaque fois dans une maison. Tu as quand même un CEO et un directeur artistique. Quelle relation tu as et comment tu fais en sorte que ça fonctionne bien?
Très transparent en fait. Ce qui était intéressant, c'est que déjà je déjeunais, je dînais avec mon CEO toutes les semaines. Donc au moins, si on avait des choses à se dire, on se les disait. Et c'était assez intelligent, c'était assez juste parce qu'en fait, rien n'était caché en fin de compte. Il m'expliquait ses problématiques, je lui expliquais mes envies, mes besoins. On parlait de stratégie, on parlait de produits, on parlait d'événements, de comment communiquer, comment gérer, aussi bien en interne qu'en externe les équipes. Donc c'était discussion ouverte sur n'importe quel sujet. Donc grande transparence en termes de communication. Donc ça ne peut que aller dans le bon sens.
C'est aussi simple que ça. Il faut parler, être transparent.
Je pense que c'est la meilleure des choses, c'est la communication. Si on est là en train de râler, mais on n'en parle pas, on peut râler pendant des semaines et des mois. Si vous n'êtes pas content et qu'il y a des choses qui vous agacent, sur lesquelles vous pensez que, il faut y aller de manière aussi intelligente. Mais il faut aussi aborder les bonnes questions et pourquoi on se les pose et pourquoi ça nous perturbe. Donc non, la communication est une des voies qui fait que en fait vous avancez et vous arrivez chez vous, vous posez moins de questions. C'est pas là en train de vos comment on dit en français, qu'on recense les questions, c'est quand on se remet les questions plusieurs fois,
qu'on tergiverse.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ce qui est intéressant quand on te parle, c'est que on sent que et c'est assez rare ça chez les designers, il y a zéro bullshit quoi. Tu sens que c'est hyper transparent, que t'es posé, que t'es droit dans tes bottes, que tu sais où tu vas, et il y a ce côté...
Je suis pas là pour faire du social en même temps. On a tous une envie d'avancer, on a tous une vision particulière.
Il n'y a pas de diva, très loin de ça.
Non, je suis pas... Je pense que j'ai pas de temps à jouer à ce niveau-là. Et je pense que quand on est bosseur et qu'on en est volontaire et qu'on aime ce qu'on fait, on n'a pas le temps de perdre du temps avec des gens qui peuvent vous agacer, ou qui sont plutôt là en train de bouger que de travailler ou de parler au lieu d'être dessiné. Donc, non, pas de diva.
Quel type de manager t'es toi? Tu te sens leader? Parce que t'es une grosse équipe.
Oui, j'ai beaucoup de monde.
Tu gères combien de personnes à peu près?
Beaucoup.
A lot.
Ouais, beaucoup. Non, je suis assez, je suis très droit, je suis très honnête, je suis très direct. Quand je suis pas content, j'ai pas besoin de le dire, ça se voit. Mais c'est important aussi de gratifier chacun d'eux quand ils ont fait du bon travail et avoir leur confiance et que j'ai leur confiance et réciproquement parlant. Et de travailler avec les meilleurs. Et c'est pour ça que je suis toujours très difficile pour choisir les bons profils.
Comment tu les choisis d'ailleurs ?
Je les écoute. J'essaie de comprendre si, techniquement parlant, ils tiennent la route, s'ils connaissent le métier, s'ils aiment la mode, s'ils sont des passionnés, si c'est des gens qui sont volontaires, s'ils en veulent, s'ils ont une ambition, s'ils veulent grandir, si ils aiment ce qu'ils font aujourd'hui, ils le font et pourquoi ils le font, et essayer de déceler à travers ce qu'ils disent leur univers, leur créativité, leur personnalité. Il faut que chacun ait une personnalité différente. Surtout quand on a des grosses équipes, je ne sais pas prendre les mêmes profils dans toute l'équipe. Donc chacun a un profil différent, chacun a une attitude, un look différent, chacun a une nationalité différente. Et c'est cette richesse de profil qui fait que, au final, vous avez des équipes qui sont incroyables, avec qui vous pouvez parler ouvertement, dire les choses, des gens qui sont extrêmement dévoués, qui sont extrêmement respectueux. Je le suis avec eux, ils le sont avec moi. Et savoir les écouter, savoir les protéger, savoir leur dire les choses quand les choses sont bien ou pas bien. Et quand il faut travailler de manière assidue, ils savent, ils sont responsables, ils doivent se responsabiliser et tout faire pour qu'ils soient contents, que je sois content et qu'on soit tous contents de ce qu'on fait.
T'as eu à un moment donné l'envie de monter ta propre marque ?
Ah, je l'ai fait.
Ok.
Quand j'étais tout jeune, 26 ans, 25 ans.
Ok.
C'était drôle. Je l'ai fait, mais en fin de compte, au bout d'un an et demi, j'ai arrêté. Parce que, étrangement, ça a extrêmement bien marché. Mais ça a trop marché. Mais c'était à l'époque quand j'étais chez Céline. J'avais 26 ans. Mais pour moi, c'était juste un truc pour rigoler. Mais la rigolade est devenue pharaonique en quantité. Et quand vous commencez, quand vous avez les premières commandes, vous avez 50 000, 100 000 pièces à réaliser, vous ne vous rendez pas compte en fait quand vous êtes jeune, mais quand ça arrive chez vous, quand il y avait le seul homme qui arrive en bas de chez vous, qui dit « je vais vous livrer des cartons », et là vous dites « ah non, ça ne va pas rentrer chez moi », et là vous dites « c'est quoi ?» Ben, c'est tous les packagings de vos commandes. Ah.
C'est juste les packagings.
Que les packagings. Et donc j'ai fait ça pour savoir si je pouvais faire quelque chose pour moi tout seul. Et au bout d'un an et demi, ça a tellement grandi que je me suis dit est-ce que j'ai besoin de ça. Et je me rappelle, je reçois une commande de je crois que c'est Selfridges ou Harrods qui était pharaonique. Et là je me regarde. Je me rappelle, j'étais au Plaza Athénée et je regardais, il y avait Janet Jackson qui était à côté, qui était très drôle, qui dit oh, « j'adore ». Elle regardait tous les produits que j'avais posés sur la table. Et là, je rentre chez moi. Et le lendemain matin, je rappelle et je leur dis « j'annule la commande et j'arrête la société ». Parce qu'en fin de compte, je me suis dit « le plaisir ne devenait plus un plaisir en fait ». J'avais fait ça juste pour m'amuser, mais j'avais déjà une position, j'avais déjà des équipes, j'avais déjà un job qui m'intéressait. Mais je voulais juste faire ça juste pour rigoler. Mais c'était pas une rigolade, ça devenait juste une grosse. Ça devenait pharaonique. Et je dis, mais est-ce que c'est de ça que j'ai envie, en fait ? Non, en fin de compte, je m'amuse assez à côté, j'ai pas besoin de ça en plus. Et donc j'ai arrêté. J'avais ouvert une boutique à Paris, à Ibiza, je me rappelle.
Ah ouais, t'as vu les choses encore quand même.
Ah oui, c'est parti tellement vite.
Mais pourquoi ça a pris si vite ?
Ça a plu en fait.
Le produit était bon.
Le produit était juste.
Ça s'appelait Johnny Coca ?
Non, ça s'appelait Elisa John. En fait, j'ai du mal, je pouvais pas mettre mon nom parce que j'avais problème avec Coca-Cola.
Ouais.
Donc je voulais pas mettre Coca sur les packaging. Donc Johnny c'était compliqué, Coca c'était compliqué, Johnny Coca ensemble là c'était trop compliqué. Donc voilà. Mais donc non, après j'ai arrêté, mais ça m'a pas.
T'as pas été un crève-cœur.
Ah non non. En fait ça m'a juste confirmé, consolidé le fait que ce que je faisais était ok en fait, ça marche. Donc,
ça c'est cool quand même.
Ouais.
C'est bon pour la confiance en soi. Mulberry, ça s'arrête pourquoi d'ailleurs ?
Pourquoi ça s'arrête ? Tout simplement parce que j'étais à Londres et j'avais aussi envie de bouger. Et je m'étais investi pendant 4 ans. Et c'est vrai que j'étais toujours attaché à mon passé avec le groupe LVMH. Et parce qu'en fait, pour moi, c'est un groupe qui est incroyable. Dans le sens où ils m'ont toujours, on va dire, soutenu. Ils m'ont toujours apporté tout ce dont j'avais besoin, créativement parlant, pour développer ce que j'avais envie de faire dans n'importe quelle maison. Et en même temps, j'ai toujours trouvé chez eux ce côté très attentionné et juste, gentillesse absolue. Des gens qui étaient des personnes, une famille incroyablement posée, intelligente et qui se posait les bonnes questions et qui avait aussi ce talent de trouver les bons talents et de vous faire confiance. Et c'est vrai que j'avais passé déjà 15 ans dans le groupe et j'ai toujours pu avoir cette liberté créative chez eux et reconnu vis-à-vis de la famille et en même temps des maisons. Et voilà, donc en fin de compte, c'était un peu why not de revenir et on est toujours resté en très bonne relation et puis c'est fait qu'à un moment donné, c'était le moment. Donc voilà.
Donc back to Louis Vuitton.
Ouais.
Avec à côté de Nicolas.
Ouais.
Gesquerre.
Ouais.
Et c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Et next step c'est quoi?
Je ne sais pas
pour l'instant.
En fait,
tu kiffes.
Justement, ouais. La maison est incroyable. Le groupe est incroyable. Nicolas est il a énormément de talent et j'adore son univers et c'est en termes de personne c'est extrêmement agréable de travailler avec lui, d'échanger créativement parlant. Il sait où il veut aller, il sait l'univers qu'il veut mettre en place. Ça fait déjà 10 ans qu'il est là et c'est vrai qu'en fait on a un échange de confiance, on est très respectueux l'un de l'autre et chacun essaye d'apporter le plus pour qu'on puisse créer des choses, je sais pas, de plus en plus folles, mais de plus en plus intéressantes et désirables. Après, c'est vrai qu'en ayant autant de catégories dans la maison, je m'ennuie pas. Donc c'est clair que j'adore les lunettes, j'ai les lunettes, j'adore les bijoux, je fais des bijoux, j'adore l'univers de la maison, là je vais travailler dessus, j'adore la maro, c'est pareil. Donc en fait, j'ai pas de temps et c'est clair que dans ces maisons-là, tout produit est important. On ne sort pas quelque chose sur lequel on ne croit pas, qui est médiocre. On se pose, on est vraiment convaincu que ce que l'on met en boutique, on représente la bonne image, la bonne qualité, le bon produit et que ces produits-là soient juste pour soi-même et pour la clientèle. Donc, et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est cette liberté créative où en fait, on peut explorer, anticiper, développer, travailler sur des nouveaux territoires. Y a tellement d'opportunités, en fait.
On parle, j'imagine, beaucoup d'innovation dans ces maisons, non ?
Il y a des départements qui sont là pour... ils sont extrêmement structurés. C'est-à-dire qu'en termes d'innovation, ils sont les premiers à développer des matières, des composants, des machines, des process... pour essayer d'être le plus avant-garde dans l'univers du produit et aussi prendre des risques de faire des choses sur lesquelles d'autres maisons n'auront pas les moyens ou n'auront pas
l'ambition
d'investir en fin de compte. Et ce qui est hyper intéressant chez eux, c'est ne jamais rester dans sa zone de confort, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire encore plus et encore mieux, et toujours en essayant de se dire on doit rester dans un grade de qualité, et ça c'est hyper important pour moi, le produit fini et l'excellence et le beau et le luxe en fait dans le dans les matières, dans les modes de faire. Et ouais,
si tu devais recommencer à zéro, tu ferais quoi? Tu prendrais le même chemin?
Ouais.
Tu regrettes des passages de ta carrière?
Jamais. Moi, j'ai toujours été extrêmement vigilant sur les choix des maisons avec qui j'allais travailler, parce que je devais être convaincu que l'univers, les personnes qui étaient autour de moi, les présidents, les fournisseurs, la fabrication, me correspondent et que je puisse me sentir à l'aise avec eux. Donc j'ai toujours... parce que bouger, c'est facile de bouger, tout le monde veut travailler avec vous. Mais pourquoi plus l'un que l'autre, en fait? Donc il faut être extrêmement convaincant, parce que j'ai pas besoin d'eux. Et là, l'autre chose, c'est que... ouais, faut qu'on se sente... je me sente à l'aise, en fin de compte, et qu'il y a une confiance mutuelle, en fait. Je pense que c'est une des plus importantes choses, en fait, dans le travail, c'est le respect et faire confiance et donner sa confiance. Et non, c'est pour ça que j'ai toujours posé les bonnes questions, en fait. Pourquoi je pars? Est-ce que c'est le bon moment de partir? Pourquoi je veux partir? Et pourquoi je veux rester? Et qu'est-ce que j'ai envie? Donc non, je referai le même chemin. Ouais.
T'es heureux aujourd'hui?
Ouais.
Ouais.
Ouais, je m'amuse. J'adore. J'adore ce que je fais, j'adore l'univers et les gens avec qui je travaille.
C'est quand même des métiers qui sont hyper demandeurs en termes de vélocité, de travail. Tu travailles tout le temps, beaucoup, ouais. J'ai l'impression.
Ouais.
On arrive à trouver un équilibre perso?
Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'il faut être hyper organisé, quoi. Il faut être extrêmement organisé.
C'est quoi la clé de l'organisation pour toi?
Il faut maîtriser parfaitement les sujets pour comprendre le temps que vous avez besoin pour sortir les choses. Et anticiper aussi, en cas où il y a des problématiques, essayer d'avoir des backups et ne pas livrer le jour où il faut livrer. Il faut déjà avoir un backup de sécurité de une semaine déjà, c'est pas mal. Ouais.
Comment, ça ressemble à quoi tes journées?
Mes journées, j'enchaîne les meetings sur meetings sur meetings sur meetings. Je passe d'un meeting accessoire en passant par la matière sur un go production, en passant par des lunettes. Ensuite, on va faire des réunions avec le développement. Et ensuite, je vais voir mes designers, je vais voir mes équipes. Donc, ça va être une journée en enchaînement de réunions
tous les
jours, les unes après les autres. Mais il faut enchaîner une réunion en étant extrêmement posé. Faut pas être stressé, ils sont trop stressés, je dis ça sert à rien d'être stressé, mais je suis pas stressé, je suis très posé, et être là et donner la réponse juste par rapport aux questions qu'on vous pose, et ne pas dire je vais attendre demain après-demain parce que je vais réfléchir. Non, il faut savoir ce qu'on veut, et en fait si on est clairvoyant et si on sait pourquoi on fait les choses et comment on les fait, on est censé donner sa réponse de manière très précise et très rapide, et trouver les bonnes solutions. Et si techniquement parlant, vous maîtrisez des sujets, vous apportez tout le temps des solutions. Donc ouais, j'enchaîne, et ensuite je rentre chez moi. Je me pose, je dîne, je prends un verre, et je termine par un peu rêver de qu'est-ce qui va se passer demain. Et le lendemain, je suis déjà content d'arriver au bureau et me dire qu'est-ce qui va se passer, parce que je regarde toujours mon calendrier le matin. Parce que sinon entre temps ça change, et je découvre le matin en disant ok, c'est quoi mon enchaînement de meeting aujourd'hui, et des fois c'est une surprise, ah c'est cool, je vais voir toute la collection bijoux, oh, je vais recevoir toutes les lunettes, donc c'est génial. Et vous allez faire les essayages, vous allez regarder les proportions, vous allez regarder, donc tous les jours c'est, il y a un côté un peu magique de ce qui va se passer, mais il faut être assez posé, il faut être extrêmement posé et pas de stress, sinon ça fonctionne pas.
T'as une vie perso quand même?
Oui, bien sûr.
Oui. Non, mais ça fait partie de l'équilibre aussi.
Ah, par contre, faut que j'aille au sport. Je me remette au sport. J'ai un peu laissé le sport, mais là, faut que je m'y remette. Ouais. Donc là, c'est objectif de septembre. On se remet au sport.
T'as une hygiène de vie de ouf, non? Tu dors beaucoup? Enfin, tu dors suffisamment?
Ouais, j'essaie de dormir assez. Je sors de temps en temps, un peu plus maintenant. Parce que je me suis rendu compte que, en fin de compte, c'est important de sortir pour voir ce qui se passe aussi.
Mmh. Tu sors
le soir?
En resto, en boîte?
Ouais, resto, boîte. Ouais. Ouais, bah.
Il faut sortir où en ce moment?
Sortir où?
Ouais.
Oh, je sais pas, moi je. Moi je sors dans différents quartiers, je vais dans le 6ème, je vais dans le 19ème, le 20ème, je vais dans le Marais, je vais un peu partout.
Il y a des clubs encore? Ça se fait plus. On est moins dans la société
dans les
clubbing. Hein.
Ouais, on va. Ouais, on est
bars,
moins
quoi.
Dans les clubs, plutôt les bars ou les terrasses.
Tu vas au Corcoran?
Non,
tu vas. Tu vas où?
Moi, en fait, je vais dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire, je vais aller au Domago un jour, mais je vais aller au Café Charlot un jour, je vais aller à La Perle, je vais aller à la Belle-Illoise, je vais aller un peu partout, en fait.
D'accord.
Il faut vraiment mixer les endroits.
Il faut être ouvert d'esprit, ouais.
Ah ouais, carrément. Mmh. Ah non, sinon, on s'ennuie.
Et tu te fonds dans cette population?
Ah, toujours.
Ouais. Parce que t'as quand même, on te remarque quand même, t'as quand même une... Déjà, tu t'appelles Johnny Coca.
Ouais.
Non, mais t'as une gueule... T'as des grosses boucles d'oreilles, t'es toujours en cuir, t'as toujours une façon. T'as quand même une sorte de, entre guillemets, un personal branding qui est assez fort. Tu passes pas inaperçu quand
t'es à la rue. Moi, je pense que je suis tout le temps discret. À chaque fois quand je rentre, on me fait repérer, mais je dis, ah, je vais être un peu low profile et en fait, je me fais griller dessus direct. Mais non. Ouais, mais c'est pour ça que je sortais pas beaucoup aussi, parce qu'à chaque fois que je sortais, après, les gens te repèrent et après,
ils te voient faire des bêtises.
Non, et ils viennent tous te parler. Des fois, j'ai pas envie de parler parce que je parle toute la journée. Donc. J'ai juste envie d'avoir des soirées tranquilles où quand je sors, juste envie d'être avec des potes.
Mais t'as une certaine notoriété maintenant. En tout cas, les gens de la mode te connaissent.
Oui. Mais bon, ça, c'est pas important pour moi. Non, ça m'intéresse.
Qu'est-ce qui est important
pas.
Pour toi?
D'être bien, d'avoir une liberté et ne pas avoir d'obligations. Et j'ai pas envie qu'on m'impose des choses.
Bah, t'en as des tonnes des obligations quand même, non?
Non, mais c'est d'obligation de plaisir.
D'accord, c'est que du plaisir.
Ah bah oui, sinon je le ferais pas.
Ouais.
Sinon je serais pas là.
Bien sûr.
Ah non, je veux pas que... Si je veux pas, je fais pas. Donc, si les choses que je ne sens pas, je ne le fais pas.
D'accord. Et pourquoi t'as accepté clairement. D'ailleurs de venir à mon micro?
Hein? Pourquoi? Pour comprendre dans l'univers où tu étais et ce que tu faisais.
Okay.
Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, il est très sympa, et ce qu'il fait, c'est super.
Ok, trop bien.
Donc j'ai fait, ok, let's go.
Let's do it. Très bien, tu passes un bon moment?
Ouais, c'est tranquille.
Ouais, ça va, c'est cool. Ouf, très bien. T'as eu des échecs dans ta vie?
Des échecs? À quel niveau? Professionnel?
Ce que tu considères comme un échec et ce que t'en as appris,
en
tu
général.
Vois, ton plus bel échec ou tes grands apprentissages de la vie, tu vois. Chose qui est intéressante dans ce podcast, c'est quand même d'essayer de repartir avec des apprentissages et un état d'esprit, etc. On sent que...
Moi, ce que je dis, c'est que je ne vais pas dire que j'ai eu... Moi, globalement, je ne vais pas dire que j'ai eu des échecs, en fait. J'ai toujours tourné les choses un peu à l'envers en me disant... Est-ce que tu es heureux et satisfait de ce que tu fais? Et toujours me poser toujours ces bonnes questions en me disant si t'es pas bien, tu bouges et on va pas t'imposer des choses. Et en même temps, tu as la possibilité de faire plein de choses. Moi, ça, c'est de la chance que j'ai. La possibilité de faire plein de choses. Mais comment tu veux les faire pour prendre du plaisir? Mais effectivement, en fin de compte, ce qui me chagrine le plus, c'est que quand j'ai fini, en fin de compte, je suis content et après je suis insatisfait parce que je me pose toujours en me disant est-ce que j'aurais pu faire mieux. Donc effectivement, j'enchaîne les collections d'après et à chaque fois je me dis est-ce que je peux. Et c'est dur d'être satisfait en fait. Et de temps en temps, il y a un truc qui me dit ah j'adore, comme ça de temps en temps. Des fois, c'est des choses qui sont toutes bêtes, une paire de lunettes ou un bracelet ou un truc où personne ne va se rendre compte. Pourquoi ce produit-là plus qu'un autre, en fait. Mais je pense qu'il faut... Indirectement, il y a ce côté positif d'être insatisfait. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit qu'on doit toujours avancer pour arriver à une situation où on se sent bien. Et... Donc, moi, globalement, Est-ce que j'ai eu des moments complexes? Je sais pas. Je me suis jamais posé ces genres de questions.
Mmh.
Ouais.
De quoi t'es le plus fier ?
Le plus fier, de pouvoir travailler pour des maisons incroyables et avec des gens talentueux.
Mmh.
J'adore travailler avec les gens qui sont talentueux. J'adore échanger avec les gens qui sont intelligents. Ouais. Bon, évidemment, intelligent dans le sens où j'adore discuter et échanger avec des gens qui maîtrisent leur sujet.
Mmh. Bah là, tu travailles avec le top.
Mais en fait, c'est super excitant parce qu'en fin de compte, on se pose des bonnes questions et en même temps, on se dit comment on peut faire mieux en fait.
Mmh.
Et j'adore ça en fait.
C'est vrai
j'adore échanger avec des gens qui ont du répondant, avec qui on peut converser et se poser des questions et se reposer des questions sur lesquelles on s'est posé en disant mais est-ce qu'on est vraiment convaincu et de quoi on a envie. Donc, et c'est ça qui est intéressant dans ces maisons, c'est de pouvoir être entouré de belles personnes, aussi bien en termes de design ou d'autres départements, et prendre du plaisir à échanger et communiquer.
Tout ça semble très très simple hein, quand même. Hein.
Non, mais toujours. Oui, mais c'est très simple quand tu en parles, mais en fait, la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Effectivement, en fin de compte, quand j'en parle, c'est assez.
Tu embellis pas un peu les choses quand même?
Moi, j'en parle comment moi je vois les choses. Après, c'est clair que le rythme, l'intensité est extrêmement dur parce qu'en fait, le rythme fait qu'en fin de compte, on doit apporter et suivre une quantité importante de projets. Mais si on n'est pas content, on ne le fait pas. Donc si je le fais, c'est que je me sens ok en fait, je me sens heureux dans ce que je fais et où je vais. Donc ouais,
très bien. Je te propose qu'on passe aux questions de la fin. J'ai une question que j'aime bien poser depuis que j'ai rebrandé ce podcast là en The Bold Way. C'est si il te restait 3 ans à vivre, qu'est-ce que tu ferais?
Waouh. Je pense que je me resterai avec ma famille, avec ma maman, et je me poserai au bord d'une terrasse sur la plage, et je referai le monde. Et je verrai tous les gens que j'aime pour dire que je les aime. Et voilà.
C'est un bon programme, ça.
Ouais. C'est important.
Carrément. Une question pour clôturer, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Ah. Qu'est-ce que j'aimerais entendre? Oh, il y a une personne en particulier?
Bah, plusieurs, hein, parce qu'en plus, t'en as croisé quand même pas mal que j'aimerais bien interviewer. Hein. Mais celle qui te semble le plus. Enfin, pas le. Enfin, après, c'est assez difficile de le tourner comme ça. Mais, ouais, qui t'as envie d'entendre en fait?
Que j'aurais adoré entendre. J'aurais adoré entendre McQueen encore.
Steve McQueen.
Ouais. Alexander McQueen.
Alexander McQueen, ouais.
Ouais.
Son diminutif.
Je trouvais qu'il avait un univers. Moi, même je connais très bien son univers. Mais il était assez déroutant.
Tu l'as côtoyé?
Oui, oui. Assez déroutant et en même temps passionnant. Avec une vision créativement parlant, politiquement parlant, qui était assez forte en fait, assez rebelle et en même temps hyper talentueux. Sinon aujourd'hui je dirais ouais, je sais, moi, pas évident parce qu'en fin de compte on aime bien découvrir beaucoup de monde, mais après j'en connais beaucoup, donc une personne que je connaîtrais moins, je sais pas. Muchelo Prada.
Ouais, c'est clair.
Ouais, là j'aimerais bien qu'on l'écoutait. Les autres, je les connais déjà.
Puis tu leur parles, tu les côtoies. Ouais.
Mais qu'elle se pose et l'écouter, ouais, ça m'intéresserait.
Tu creuserais quoi comme, comme sujet?
J'aimerais savoir où est-ce qu'elle va. Donc, quelle direction elle veut. Elle veut driver aujourd'hui ce qu'elle fait avec Prada. Et c'est assez magique le, l'histoire de cette maison également. Ouais, je trouve ça assez...
Elle est toujours juste, quoi.
Elle est toujours juste. Après, discutable sur certains, produits. Mais je trouve que j'aime la personne, en fait. Et c'est une femme particulière avec une force et une vision extrêmement moderne et extrêmement italienne en même temps et contemporain qui m'intéresse à cette espèce de cette femme contemporaine italienne unique dans son genre. Moi, pour le coup, elle a amené dans l'univers de la mode quelque chose d'extrêmement juste et l'évolution où elle a drivé cette maison était assez impressionnante. Après il y a des périodes plus fastes et plus excitantes que d'autres, mais oui, il y a toutes les années 90-2000, c'était génial,
fou,
hein. C'était incroyable. On était tous accros en fin de compte. Après là c'est un peu plus posé. Mais ça, c'est très personnel. Mais non, je trouve que c'est une femme de caractère et de force qui est assez impressionnant.
Quand on fait ton métier, là, il n'y a pas des moments où on a peur de devenir has-been?
Ah, ça, c'est la grande question de tous les designers. Ouais, je pense que chaque designer doit se poser cette question.
Ouais.
Je pense qu'effectivement le plus difficile, je pense, c'est de se dire est-ce qu'on est in ou out. Mais je pense que les gens designers qui ne se posent pas les bonnes questions, qui ne savent pas écouter, qui ne savent pas regarder ce qui se passe et qui ne savent pas regarder en fait où est-ce qu'on va et quelle est la direction dans laquelle on est, là ça devient complexe. Donc si vous ne suivez pas ça, c'est clair que c'est fini, quoi.
Et toi, ton remède, c'est vraiment d'aller dans la rue, c'est de vous sentir.
Pour moi, c'est deux choses, c'est d'être dans la rue, de voir ce qui se passe, de communiquer, d'échanger, de travailler avec des équipes qui sont justes, qui sont jeunes aussi. J'ai des designers qui ont 23 ans, 35 ans. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir une
de
mixité de diversité d'âge aussi dans ces équipes et de s'entourer aussi. Donc essayer de comprendre, d'échanger leur vision, ma vision. Et de toute façon, je dis tout le temps, en fin de compte, on ne fait jamais rien seul. On arrive à devenir successful à travers aussi par l'aide des autres. Parce que sinon, ça serait complexe. Si vous êtes tout seul à gérer... autant de produits, c'est impossible. Donc non, c'est les équipes, c'est l'environnement, et c'est aussi où vous sortez, c'est aussi où vous bougez, c'est aussi, je sais pas, arrêter de faire des trucs de vieux, quoi. Je sais pas. Donc c'est, je sais pas, j'ai pas passé mes vacances posées. Ouais, je sais pas. Je veux bouger, sortir, voir ce qui se passe.
C'est curiosité, quoi.
Et puis être curieux.
Ouais, faut vraiment... être curieux.
Ouais.
Trop bien. Eh bien, écoute, c'était le mot de la fin. Soyez curieux. On enfonce un peu une porte ouverte, mais quand même, c'est quand même la clé. Et ça, qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent sur leurs acquis et qui. C'est quand même ça le sujet. C'est qu'à un moment donné, si tu te remets pas en question, si tu ne mets pas des coups de pied aux fesses, ouais. T'es vite has-been.
Pose-toi des bonnes questions et prends le temps de voir ce qui se passe et d'échanger. Et ne pense pas que tu es seul. Et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de marques, il y a tellement de concurrence. Alors, fais tout pour que tu sois différent et unique dans ce que tu fais. Et essaye d'être curieux et de prendre du plaisir.
Merci, Johnny.
C'était un plaisir.
À bientôt. Salut.
À bientôt. Salut.
Je suis Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way.
Retrouvez l'épisode en texte et en images sur theboldway.fr. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.